Bonjour à tous, je m'appelle Samuel, je suis l'un des pasteurs ici. Je pense à la famille Bourrel qui sont au Canada en ce moment, que Dieu les bénisse aussi. Notre église ensemble, nous étudions la vie de Jésus dans l'évangile selon Matthieu. Et cet évangile de Matthieu nous inspire à vouloir prier que son règne vienne. C'est la phrase du Notre Père, vous connaissez, que ton règne vienne, c'est notre prière. Et c'est quelque part le souhait de tous qui voulons un monde de paix, de justice, d'amour, d'unité. Et donc c'est le projet de Matthieu que de nous aider à voir ce règne venir. Et dans un des 5 grands discours de cet évangile, Jésus va expliquer justement sa stratégie de croissance, le développement de son royaume, l'extension de son royaume, de son règne. Et c'est ce qu'on appelle en fait la mission, l'œuvre missionnaire. Ça restera un des phénomènes les plus marquants des derniers 2 millénaires. C'est le progrès du royaume de Christ qui avance sans les grands moyens financiers, sans les grands moyens militaires, sans les grands moyens politiques, sans l'appui médiatique. Pourtant, le règne de Christ vient et s'étend, et tout cela grâce à la mission. Donc ce matin, nous allons lire la charte missionnaire de Jésus, son programme missionnaire pour étendre son règne. Et j'aimerais en quelque sorte aussi dédier ce message à notre sœur Sarah. Et je trouve qu'en elle, nous trouvons un modèle d'un missionnaire qui incarne les valeurs de Christ, de sacrifice, de renoncement, de service, pour partager la bonne nouvelle de son royaume. Elle le vit et... Elle est un exemple pour moi et pour bien d'entre nous, une inspiration pour la mission. Donc lisons Matthieu, c'est ce 10, je vais commencer un peu avant, en chapitre 9, verset 35, et nous lirons tout le chapitre 10, le maître de la mission. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez des démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais s'il n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. De ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerait, c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui n'aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous connaissez peut-être le roman qui est devenu un film très célèbre de Ben-Hur. Je crois que c'est le film le plus récompensé de tous les temps. Le titre officiel du livre, c'est Ben-Hur, un récit de Christ. En fait, c'est un roman qui retrace l'histoire d'un prince, un noble juif qui s'appelle Judas Ben-Hur. À l'époque de Jésus, il est faussement accusé par les Romains. Il est envoyé aux galères. Et là, il devient assoiffé de vengeance. Il veut renverser le pouvoir politique de Rome. Donc, il revient à Jérusalem dans cette optique-là. Et là, il y a la fameuse course de chars. Mais pendant ce temps, il rencontre Jésus. Et puis après avoir notamment assisté à la crucifixion, Judas devient chrétien. Et il est inspiré, il est touché par les principes d'un royaume plus grand que tous ceux de la terre. Un roi, Jésus, et son royaume et son fonctionnement le touche par... Même dans le cadre géopolitique de son époque, il voit que les principes de Jésus sont plus forts que ceux de l'Empire romain. Et donc, le film s'arrête là, mais dans le livre, en fait, il c'est un noble, un riche, donc il utilise son argent pour devenir missionnaire. Et il part à Rome pour implanter une église, pour financer une église. Donc, ce n'est pas le projet phare, c'est le projet catacombe à l'époque. Et il va aller à Rome pour démarrer cette église. Donc, c'est un roman, c'est pas une vraie histoire. Mais l'auteur, ce qui est intéressant, l'auteur de ce livre, Lew Wallace, il était un soldat, un général dans l'armée, pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Donc, il a connu la guerre, il a connu un peu les mêmes conflits géopolitiques, la violence. C'est aussi un avocat, donc il réfléchit à ces questions. Il se trouve un jour dans une discussion avec un athée, ils prenaient le train ensemble, et un athée très célèbre, très connu de l'époque, il défendait les idées athées. Et l'auteur de Ben-Hur, en discutant avec cet athée, il se trouve incapable de répondre à ses questions, de défendre sa foi, de parler de Jésus comme une solution plus intéressante que d'autres. Et lui-même, il dit, finalement, je m'appelle chrétien, mais je ne connais pas la Bible, je ne connais pas les évangiles, je ne connais pas Jésus. Donc, il décide d'étudier vraiment les évangiles pour lui-même. Il étudie la personne de Jésus. Et il se dit, au lieu d'écrire un livre commentaire qui pourrait ennuyer des gens, je vais écrire une histoire, un livre palpitant, tout en restant fidèle au contexte de l'époque. Et, en fait, donc, il raconte cette vie, cette manière que Ben-Hur se convertit en pensant à Jésus vis-à-vis de ses propres pensées de vengeance, de vouloir conquérir, de renverser le pouvoir politique à Rome. Et ce livre, en fait, même si c'est un roman, en fait, le livre de Ben-Hur a convaincu beaucoup de personnes de la véracité et de la beauté du message chrétien. On dit que le livre a grandement contribué à la réconciliation entre le Nord et le Sud qui sortaient des années de guerre. Et ce livre a suscité, paraît-il, de nombreuses vocations missionnaires, parce que les gens ont dit, ouais, si Jésus est comme ça, et si son royaume s'étend comme ça, c'est beau, c'est mieux que ce que je vois dans ce monde ici-bas. Effectivement, c'est ce que nous découvrons en étudiant l'évangile selon Matthieu. Les valeurs de Jésus qu'il a enseignées, d'abord dans le serment sur la montagne, et maintenant ici dans le serment sur la mission, peuvent permettre d'étendre son règne et de remporter sur tout obstacle. Et ça nous touche. Et finalement, ça nous donne envie de participer à une telle œuvre, une telle mission qui est mieux que les projets, que la violence, la conquête géopolitique, qui, en général, les royaumes veulent étendre leur règne par la violence, par les moyens financiers, mais le règne de Jésus s'étend autrement, comme il le montre ici. Donc ce matin, nous allons étudier la charte missionnaire de Jésus. Nous avons étudié le serment sur la montagne. Maintenant, nous allons étudier le serment sur la mission. Et ici, dans le chapitre 10 de Matthieu, en fait, il envoie ses disciples sur un premier voyage missionnaire. Donc, c'est une première expérience missionnaire, un voyage à court terme pour annoncer le royaume. Ce premier voyage missionnaire est plutôt un prototype. C'est une première. Entre le prototype et la version définitive, il peut y avoir des changements. Donc, il y a quelques aspects de ce voyage qui restent prototypaire, on va dire. Donc, il dit par exemple, allez que aux brebis perdues d'Israël, n'allez pas vers les païens. Donc, restez en Israël pour l'instant. Plus tard, déjà, le message sous-entend qu'ils vont aller plus loin. Il parle des païens, il parle même jusqu'au jour où le Fils de l'homme revient. Donc, il y a certains principes qui s'appliquent juste au voyage qu'ils vont faire dans les semaines, les mois à venir. Et il y a d'autres principes qui vont jusqu'à nous, jusqu'au retour de Christ. Mais quand on regarde le prototype, en fait, c'est toujours intéressant. Le premier prototype réussi est très important et c'est ce qui a nous aidé à reproduire le bon modèle. Même si les avions ont changé depuis le premier avion qui a volé, en fait, le principe qui a fait voler le premier avion est le même qui fait voler les avions aujourd'hui. L'air qui porte sur les ailes, ce principe est important. Donc, on étudie le prototype. Le premier cas réussi pour savoir encore faire aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire ce matin. Ici, c'est le premier voyage missionnaire des disciples de Christ, mais il y a des principes qui aussi sont utiles pour nous. Et je crois, peut-être des idées basiques qu'on a l'habitude de vivre, peut-être, mais je trouve que les missions, les églises, les chrétiens feraient bien de revoir la charte missionnaire de Jésus. Parce qu'il est facile au fil des années et des siècles de s'éloigner du modèle que Jésus nous a donné pour voir son règne s'étendre dans nos vies. Alors ce matin, j'aimerais parler des moteurs de la mission qu'on trouve dans ce texte. Ensuite, les méthodes des missionnaires. Et enfin, les encouragements du maître. Donc les moteurs de la mission, les méthodes des missionnaires et les encouragements du maître. Commençons avec les moteurs de la mission. Tout d'abord, la compassion de Jésus est au cœur de la mission. Nous le voyons déjà fin chapitre 9. Il est dit que Jésus lui-même, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'attitude et le regard de Jésus vers le monde autour de lui, la foule, sont touchants. Il voit des gens comme des brebis sans berger. Il voit cette foule languissante et abattue, sans secours, sans sauveur, sans direction, sans repère, sans orientation dans la vie. Et il suffit de nous de regarder autour de nous et de constater. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Jésus aurait pu voir les gens autour de lui comme des adversaires à débattre. Mais il les voit comme des brebis sans berger. Il aurait pu les voir comme des ennemis à abattre, mais non, il les voit comme des brebis sans berger. Et c'est en voyant cela qu'il dit, verset 37, alors il dit à ses disciples, donc c'est parce que cette foule était languissante et abattue et sans berger, qu'il dit alors, verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc déjà dans cette foule, languissante et abattue, il voit un fruit potentiel, il appelle ça une moisson. Une moisson, c'est intéressant, ça parle de fécondité, ça parle de fruits, ça parle de productivité. Donc il voit dans cette foule un futur potentiel fécond dans la gloire de Dieu. Et donc cette compassion de Jésus pour le monde devient moteur de toute œuvre missionnaire. S'il n'y a pas cette base-là, il n'y a pas de mission. C'est d'abord le moteur de l'amour de Christ pour ce monde. Et c'est pour ça que de nombreux versets disent, voilà, c'est l'amour de Christ qui nous presse à aller vers les autres. Et si on est conscient que l'amour que Jésus a pour nous, combien ne pas le... à notre tour, aller vers d'autres. Donc, premier moteur de la mission, c'est la compassion de Jésus. Notre moteur, c'est la prière. Verset 38, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Là encore, c'est intéressant, le moteur de la mission, la compassion de Christ, mais aussi et d'abord la prière envers le maître de la moisson. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, envoyez donc des ouvriers ». Ou il ne dit pas « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, financez donc des ouvriers ». C'est bien, mais c'est griller une étape en quelque sorte. Il dit « la moisson est grande, priez donc que le maître lui-même envoie les ouvriers dans la moisson ». Donc ce moteur de la prière... va protéger la mission et la garder dans une dynamique spirituelle. Ces versets nous rappellent que la mission est une entreprise spirituelle, c'est une entreprise de foi, c'est Dieu qui doit diriger, ça commence avec une relation avec lui, des prières envers lui, et ce que nous trouvons dans le livre des Actes, les premiers missionnaires, c'est suite à des réunions de prière. La prière nous rappelle que oui, c'est sa moisson, c'est lui le maître de sa moisson, c'est lui le maître de sa moisson. Donc ce sont ses ouvriers, c'est lui qui envoie, c'est lui qui équipe, c'est son projet, ce seront ses méthodes. Voilà ce que la prière fait, la prière protège et rappelle que voilà, c'est un des moteurs de la mission. Et l'autre moteur de la mission, c'est le rôle, le fondement des 12 apôtres. Ensuite, en chapitre 10, on fait connaissance avec vraiment les 12. C'est pour la première fois dans les évangiles, il est question des 12 apôtres. Donc, Jésus avait des disciples et maintenant, on va sélectionner et retenir 12 pour vraiment un travail unique, particulier. Donc, on nous donne la liste des noms des 12 apôtres. En verset 1, ça parle des 12 disciples et puis verset 2, ça parle des 12 apôtres. Et c'est intéressant, le mot apôtre, littéralement, veut dire envoyé. Donc, apôtre en grec, c'est pareil que mission, missionnaire en latin. Mais justement, nous faisons la distinction entre les 12 apôtres et puis les missionnaires qui vont les suivre par la suite. Nous croyons que nous rappelons que ce texte nous rappelle qu'il y a eu 12 apôtres uniques dans leur rôle en tant que témoins de Jésus de sa résurrection. Ils ont reçu des dons particuliers. Une mission particulière d'observer Jésus et puis d'annoncer la bonne nouvelle. Donc nous croyons, nous, les générations successives, nous n'héritons pas directement le rôle des apôtres ni tous leurs dons, mais nous héritons leur message, nous héritons la bonne nouvelle de l'évangile dont ils ont été témoins, de Jésus mort et ressuscité pour nous. Et le rôle des apôtres, le message qu'eux, ils ont annoncé, et que certains qu'ils ont mis par écrit pour devenir le Nouveau Testament, devient le moteur de la mission, devient la base de la mission. Nous ne voulons jamais nous éloigner du message apostolique. La mission veut toujours garder en priorité l'annonce du message apostolique, le message de Jésus. D'ailleurs, c'était leur appel premier, c'était d'aller prêcher. Aller prêcher. Et c'est ce que aussi le rôle du missionnaire devient la même chose, de prêcher le même message qu'eux, ils ont prêché. La mission veut toujours garder donc en priorité cette annonce. Beaucoup, au fil des années, beaucoup d'idées, de suggestions, souvent faites avec des bonnes intentions, ont parfois privé la mission de ce moteur puissant qui est le message des apôtres. Donc, rappelons-nous que notre mission première, notre but est d'annoncer le roi, son royaume, son message, comme ces apôtres ont fait. Dans ce, première expérience missionnaire et surtout ce qu'on trouve dans les épîtres. Donc ça, c'est les moteurs de la mission. Gardez en tête la compassion de Jésus, la prière et le fondement des 12 apôtres. Et ensuite, nous pouvons maintenant parler des méthodes des missionnaires. Et c'est ça qui est assez surprenant. Comment le règne de Jésus va s'étendre? Ben, c'est grâce à ces méthodes qui sont finalement d'une simplicité, d'une sobriété, d'une humilité. Mais leur efficacité et peuvent se constater encore aujourd'hui. Le règne de Christ s'étend et nous touche jusqu'à Toulouse. Et chacun de nos vies, et c'est beau. Donc, dans les méthodes des missionnaires, je vais parler de plusieurs. Tout d'abord, une attention équilibrée aux besoins physiques des gens. Ça a été illustré pas mal par la présentation de l'offrande missionnaire cette année, ce centre de santé. Mais pour que le message soit reçu, pour que le message qui reste toujours la priorité d'annoncer la bonne nouvelle, mais que pour ce message qui reste soit reçu, Jésus a équipé ses apôtres ici, des dons pour guérir, pour faire les biens. Donc, eux-mêmes ont dit... guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lèpres, chasser les démons, tout ça. Donc, pour pouvoir avoir une écoute et annoncer le message de l'Évangile. Et nous savons que souvent dans des contextes pionniers, des contextes hostiles, la manière de gagner une écoute, la manière de établir des relations avec des personnes, c'est par le biais des soins physiques, les besoins matériels, les besoins physiques des personnes, comme la santé notamment. Et c'était souvent le cas, et c'est beau de voir cette histoire au fil des siècles de la mission, où les missionnaires motivés par la compassion de Christ vont commencer à apporter des solutions de santé, d'éducation, de développement, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure avant le culte que les hôpitaux, souvent les hôpitaux ont des origines chrétiennes, missionnaires, pour offrir santé, pour ensuite annoncer l'Évangile. Bien sûr, on garde l'équilibre. On ne veut jamais oublier que le but, c'est aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le pardon des péchés, soigner l'âme, le cœur, parce que c'est l'âme qui est éternelle. Jésus dit plus tard dans ce même message, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps dans la GN. » Donc il y a cette vie ici-bas, mais il y a la vie d'après qui est encore plus importante. Donc on veut soigner l'âme et le corps pour qu'ils aillent rejoindre Dieu éternellement. Et donc l'équilibre de la mission n'est peut-être pas toujours facile à réussir, mais oui, soigner des besoins physiques pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle qui soigne l'âme éternellement, et ne jamais oublier cet aspect-là de la mission. Mais cette méthode a été efficace, de montrer l'amour de Christ, montrer la compassion de Christ en prenant soin des gens. C'est des témoignages merveilleux au fil des années, des siècles, des chrétiens qui ont vraiment apporté du bien dans des différents endroits du monde. Ensuite, une modération équilibrée concernant l'argent, concernant les biens matériels. Et je trouve que ça, c'est une méthode très, très importante. Il les envoie, il dit en verset 10, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. » Alors, ça semble assez radical comme sobriété, comme modération. Mais déjà, Jésus les envoie à un voyage court terme. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Les besoins sont minimes. Plus tard, quand ils vont plus loin, les instructions vont se modifier un peu. Mais le principe est très intéressant, c'est-à-dire la mission n'est pas un projet à but lucratif. Et ça va protéger l'extension du règne de Christ de toute motivation intéressée qui deviennent souvent des problèmes. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais l'argent peut facilement devenir un problème dans la mission. Si on facture l'Évangile, ça va à l'encontre du message qui l'Évangile est gratuit, comme ça a été dit lors de la Sainte-Cène. Le message de l'Évangile est gratuit. Alors si on le facture, c'est contre-productif. Jésus le dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Donc, Jésus veut éviter que les missionnaires le deviennent pour des raisons pécuniaires. Il veut éviter que les gens se convertissent pour des raisons d'argent. Ça, c'est pas facile. Si le missionnaire arrive dans un contexte l'argent plein les poches, Ce serait toujours un problème pour savoir si les gens croient vraiment à l'évangile pour des raisons légitimes, touchées dans leur cœur, ou s'ils le croient juste pour avoir plus d'argent. Et ça, c'est un grand problème. Et donc, ces instructions, un appel à une modération, à un renoncement, un sacrifice, je trouve que ça va protéger la mission au fil des siècles et le règne de Dieu va s'étendre, pas comme l'Empire romain, pas avec la vengeance, la force militaire, la force financière, mais par la foi, par la puissance de Dieu. Et c'est précieux. Aujourd'hui, on peut adapter des principes. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers. Il faut faire un peu d'adaptation à nous, mais l'appel reste le même, de compter sur Dieu pour la foi, ne pas exagérer les besoins financiers. Il y a un compte Instagram aux États-Unis qui fait quand même un bon travail, ça s'appelle Preachers and Sneakers, c'était, on en parlait tout à l'heure ce matin, mais les baskets de certains pasteurs trahissent le message, parce qu'il y a tout ce milieu un peu de l'évangile de prospérité, et donc il faut être vraiment bling-bling sur l'estrade quand on prêche. Alors il y a un compte qui prend des photos des baskets et affiche le prix. Donc vous savez, certaines baskets, quand c'est des éditions luxueuses de Nike, machin, c'est 2000, 3000 euros. Donc est-ce que vous voulez un pasteur qui a des baskets de 5000 euros? Pour certains, ils vont dire, voilà, la bénédiction repose sur notre église, parce que notre pasteur a des baskets de 5000 euros. Mais Jésus interdit cela. Et puis, en fait, on voit derrière, c'est tout un problème. C'est l'avarice. Le conseil de Jésus, finalement, est tout aussi applicable aujourd'hui et nous protège dans la foi, dans l'humilité. En même temps, je parle d'un équilibre, une modération équilibrée concernant les biens matériels. Jésus dit dans ce même verset, « Car l'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, équilibre. Ni on ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait ça pas pour de la luxure, mais Jésus ne demande pas non plus aux missionnaires de se mettre dans une précarité extrême où la vie quotidienne devient impossible parce qu'on n'a pas de quoi manger. La pauvreté en soi n'est pas la spiritualité. Et certains ont poussé la chose trop loin. Jésus appelle équilibre. Donc cet équilibre protège la mission pour qu'elle avance par la foi, mais qu'elle mobilise tous. Donc c'est bien de soutenir les missionnaires. C'est bien que les ouvriers reçoivent un salaire, une nourriture. Donc pas d'exagération. Et encore, ce principe, je trouve, va permettre au règne de Jésus de s'étendre, de venir par la foi, et va protéger l'Église des excès. Et enfin, un effort équilibré d'intégration dans la culture. Versets 11 à 14, il parle de quand quelques villes ou villages où vous entrez, informez-vous si se trouve quelque homme digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Quand si la personne accepte, entrez dans sa maison, saluez-la, restez là, que votre paix vienne sur elle. Si on ne vous reçoit pas, vous pouvez passer votre chemin ou continuer. Mais ces versets 11 à 14, je pense, nous appellent finalement à se faire accueillir par les personnes de la culture, ne pas rester à l'extérieur de la culture, de la société. Il y a l'idée de vraiment demeurer chez quelqu'un, une personne digne de confiance, reconnue dans la société. Donc, bien sûr, on applique le principe de nos jours de plein de manières, mais il y a une grande sagesse dans les paroles de Jésus de s'intégrer dans la culture, de pouvoir vraiment habiter chez eux, gagner la confiance des personnes. Dans certains cas, c'est gagner la confiance du chef de village, et c'est ce que font beaucoup de missionnaires par les projets de santé, comme nous avons vu. Je pense que ces versets parlent il y a tout l'apprentissage de la langue, parfois c'est un défi, mais il faut bien apprendre la langue pour demeurer chez quelqu'un et saluer et partager des choses ensemble. Parfois, ça veut dire adopter certaines habitudes de la culture. Si on mange chez les gens, si on habite chez eux, on est sensible aux habitudes culturelles. Apprécier ou aimer la nourriture, si on va le servir, l'accueillir. Donc, tout ça, c'est logique, mais des fois, on oublie. La tentation, des fois, c'est d'imposer sa culture sur l'autre. Donc, le missionnaire va imposer sa culture sur là où il va, et souvent, ça ne marche pas. Donc, globalement, être une bénédiction pour les gens, apporter la paix, s'intégrer dans la culture. Voilà la méthode que Jésus nous enseigne. Tout cela, bien sûr, d'une manière équilibrée jusqu'à une certaine mesure. Le verset 14 dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison. » C'est-à-dire, si on n'écoute pas, la solution, ce n'est pas de changer des paroles. Il ne faut pas compromettre le message pour se faire accueillir par la culture. Il ne faut pas abandonner l'obéissance à Christ lorsqu'on veut partager son message. Alors, si les gens sont polygames, on ne devient pas polygame. Si les gens adorent telle idole, on n'adore pas l'idole avec eux. Si les gens rejettent les paroles de Christ, cela ne veut pas dire qu'on change les paroles de Christ pour qu'ils les acceptent plus facilement. Donc il y a un équilibre dans cette intégration qui se trouve déjà dans ces versets. Mais en pratiquant ces méthodes, qui sont, je dirais, d'une simplicité, et beaucoup de missions les ont comprises, il y a le règne de Dieu progresse vraiment. Une attention vraiment équilibrée aux besoins et une modération équilibrée dans les biens et un effort équilibré d'intégration. Voilà les méthodes que Jésus conseille à ses disciples et qui ont été pratiques pour ce premier voyage missionnaire, un prototype, mais qui vont aussi nous aider à discerner sa volonté dans de futurs projets missionnaires. Et enfin, j'aimerais parler des encouragements du Maître. Jésus donne plusieurs promesses à ses missionnaires pour les aider à persévérer, il les appelle même à quelque part persévérer jusqu'à la fin. Il parle jusqu'à son retour. Il y a des découragements en chemin. Des fois, le missionnaire va arrêter. Mais Jésus donne des promesses qui aident les missionnaires, les églises qui soutiennent les missionnaires, tout le monde, toute l'église, à persévérer jusqu'à la fin pour connaître sa délivrance et son aide et son salut. Donc, un premier encouragement, c'est vraiment la protection dans la persécution. Il y a à partir du verset 16, presque jusqu'à la fin du chapitre, il va quand même avertir les missionnaires et les églises et les chrétiens, les disciples de Christ, en disant que ce sera souvent difficile. Vous serez emprisonnés, vous serez persécutés, vous serez rejetés par la famille. Ça va des fois apporter la division dans la famille. Mais il donne il promet sa protection dans la persécution. Par exemple, il dit, vous serez livrés aux tribunaux, vous serez livrés même devant les gouverneurs, devant les rois, devant les païens. Donc là, déjà, on voit qu'il anticipe le jour où ça va plus loin que la maison d'Israël. Vous serez livrés à ce monde, mais ne vous inquiétez pas, il dit verset 19, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à vous. Donc là, la promesse du Saint-Esprit, dans ces moments critiques, devant un tribunal, par exemple, qui aide à savoir que répondre avec sagesse. Et beaucoup de missionnaires ont pu expérimenter cette paix, ce courage, ce discernement, cette sagesse de parler face à l'opposition. Donc vous aurez le Saint-Esprit là pour vous aider à parler. Vous aurez aussi le modèle de Jésus-Christ. Il dit le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur, verset 24. Et ça, c'est un encouragement puissant pour les missionnaires de rappeler que la manière qu'ils ont traité Jésus, lui, le missionnaire par excellence dans ce monde, on peut s'attendre à ce qu'ils vont traiter ses envoyés, ses missionnaires de la même façon. Et c'est rassurant, en quelque sorte, Jésus était le missionnaire parfait. Il a parfaitement parlé la langue, il a parfaitement adopté les pratiques culturelles juives, en l'occurrence. Il a guéri autour de lui, il a aimé, il a béni, il a pardonné, il était rempli de compassion, de patience, il faisait que du bien. Et malgré tout ça, il a été rejeté par la foule. Donc c'est pas les méthodes qui étaient le problème, c'est pas le missionnaire qui était le problème, c'est le cœur de l'homme. Et s'ils ont traité Jésus comme ça, il nous donne cet avertissement, mais c'est un encouragement qu'ils vont vous traiter de la même façon. Mais il y a tout le parcours de Jésus qui passe par la croix et ensuite la résurrection nous aide à vivre la mission. Donc vous aurez le Saint-Esprit qui vous aide, vous aurez le modèle de Christ, le Fils, et puis vous aurez la providence, la protection du Père. C'est beau ce qu'il dit, la providence de Dieu qui prend soin de ses enfants. Verset 29, ne vendons pas deux passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombent pas un terre sans la volonté de votre Père, et même vos cheveux sont tous comptés. Et puis puissant. Si un oiseau ne tombe à terre, ce n'est pas sans la volonté de Dieu. Si un de nos cheveux tombe à terre, ce n'est pas sans la volonté de Dieu. Si la mort, le deuil frappe notre foyer, comme c'est le cas de nos missionnaires, ce n'est pas sans la volonté providentielle d'un Père céleste qui nous aime et qui est sage et qui sait ce qu'il fait. Donc, il rappelle que même avec la persécution, il y a une espérance céleste au-delà de cette vie et Dieu assure notre protection, même au-delà de la mort. Donc oui, si un missionnaire est arrêté, si un missionnaire est persécuté, même tué, cela s'inscrit dans la providence de Dieu, dans la protection, sa volonté sage, tout comme la mort de Jésus. Jésus est mort. Mais c'était aussi la volonté de Dieu, et Dieu l'a porté au-delà, l'a protégé au-delà de la mort pour le ressusciter. Et de savoir ça, de savoir que j'ai le Père qui me protège, j'ai l'exemple du Fils, j'ai le Saint-Esprit en moi, eh bien, ça peut vraiment porter les missionnaires et le règne de Christ s'étendre. Au lieu de cultiver la vengeance, l'amertume face à les difficultés, face à la persécution, au lieu de prendre l'épée, on peut continuer à porter sa croix, à renoncer à sa vie. Ce qui n'empêche pas d'être sage. Hein. Jésus a dit, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc il y a une simplicité, une innocence, une douceur comme les colombes. Mais il appelle aussi à une prudence comme des serpents. Savoir des fois répondre sagement, savoir peut-être quitter une ville et fuir la persécution, savoir... éviter certaines persécutions, savoir apporter le message avec une sagesse. Tout ça, on le trouve dans ce verset. Mais on sait ce que le message de Christ, des fois, les réactions que ça peut provoquer. Et le missionnaire regarde à Jésus pour continuer. Donc il a vraiment une protection dans la persécution. Et enfin, je termine avec ça, c'est un encouragement puissant, c'est une identification étroite avec le missionnaire. Jésus promet une identification étroite avec le missionnaire. Le missionnaire est vraiment l'envoyé, l'ambassadeur de Jésus-Christ. Et Jésus s'identifie au missionnaire, donc il dit, voilà, on vous reçoit, c'est comme si on me reçoit. Et ça, c'est encourageant. L'accueil que vous montrez à l'ambassadeur d'un pays reflète l'accueil que vous voulez accorder au pays en général. Et donc, cette charte missionnaire termine avec trois versets qui sont là pour nous encourager. Celui qui vous reçoit, me reçoit, verset 40, verset 41. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et verset 42, celui qui donne une verre d'eau froide à l'un de ses petits, je vous dis, il ne perdra pas sa récompense. Vous voyez cette identification étroite avec le missionnaire que Jésus accorde comme encouragement. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et c'est beau, il dit, en fait, c'est encourageant, mais c'est comme celui qui reçoit un prophète, en tant que prophète, il sera récompensé comme un prophète. Et ça, c'est beau. Celui qui reçoit un juste sera traité comme un juste. D'ailleurs, c'est la bonne nouvelle de toute la Bible. Celui qui reçoit Jésus, le Fils de Dieu, celui qui reçoit dans son cœur Jésus, le juste, il sera traité comme Jésus, le Fils de Dieu, sera traité. C'est-à-dire gloire et honneur éternellement. Parce que vous recevez Jésus le juste, vous serez traité comme Jésus le juste. Et ici, Jésus s'identifie à ses missionnaires en disant, si on vous reçoit, on me reçoit, et il y aura la même récompense. Je termine avec l'image du verre d'eau, je reviens au film de Ben-Hur. Il y a deux célèbres scènes dans ce film qui sont devenues célèbres, c'est les moments qui concernent les verres d'eau. La première fois, c'est quand Jésus lui-même donne un verre d'eau à Ben-Hur lorsqu'il est en route pour les galères. Il est enchaîné par les Romains et conduit aux galères. Et les Romains ne veulent pas lui donner de l'eau, mais Jésus, pour Ben-Hur, pour l'instant c'est un étranger, Jésus vient vers lui de son atelier de charpentier et il lui donne à boire dans un geste de compassion et d'amour. Et on reconnaît cette même compassion dont Matthieu 9 parlait, une compassion pour les foules languissantes sans berger. Et Jésus donne à boire à Ben-Hur contre la volonté des Romains, en quelque sorte. Et bien plus tard, dans la vie de Ben-Hur, une fois qu'il est sorti des galères, qu'il est revenu à Jérusalem, En fait, sa propre conversion se passe en quelque sorte dans la scène de la crucifixion. Et le film l'illustre avec lui, à son tour, qui donne un verre d'eau, qui essaie de donner un verre d'eau à Jésus pour rester fidèle au texte biblique. Un soldat romain l'empêche. Jésus n'a pas eu à boire comme ça. Mais pour lui aussi, c'était parlant de sortir des rangs du peuple et de vouloir donner en quelque sorte un verre d'eau à Jésus. C'était défier l'Empire romain et ses méthodes, sa façon d'agir, sa façon d'étendre son règne. Mais il renonce à cette façon et s'allie, s'associe à Jésus-Christ en quelque sorte par ce geste. Encore, c'est dans un roman, c'est dans un film, c'est pas dans la Bible, mais c'est parlant. On y voit la noblesse et la grandeur de vouloir donner un verre d'eau à Jésus ici. Et par extension, ça nous aide à comprendre un peu ce geste. Par extension, c'est de la noblesse et de la grandeur de vouloir donner un verre d'eau à l'un de ses représentants. Par la suite, Jésus va envoyer ses disciples. Ils vont se retrouver aussi dans des situations similaires, rejetés par l'Empire romain, sa puissance et ses méthodes d'étendre leur règne. Et la question, c'est comment nous allons les traiter, ces missionnaires, ces envoyés de Jésus. Est-ce que sommes-nous prêts à leur donner un verre d'eau comme un peu comme a fait Ben-Hur? C'est courageux, ça demande de la foi. Quelque part, ça demande une conversion à Jésus-Christ pour oser un tel geste. Mais c'est la promesse, quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Dans ce même évangile, plus tard, Matthieu 25, Jésus dit, « J'ai eu soif, est-ce que vous m'avez donné à boire ?» Et certaines disent, mais on ne se souvient pas d'avoir donné à boire. Jésus dit, c'est parce que vous avez donné à boire à un de mes disciples. Je pense qu'il parle notamment de ces missionnaires, de ces humbles missionnaires qui partent avec le message, ces envoyés, parce que vous avez donné à boire à un de mes missionnaires. C'est comme vous m'avez donné à boire moi. Et si vous l'avez rejeté, c'est comme si vous m'avez rejeté. Donc le jugement final, même en quelque sorte, se joue sur cette manière d'accueil, le message par l'envoyé de Jésus-Christ. Et ça nous encourage ce matin. Peut-être ce matin, vous devez, c'est le moment pour vous, comme donner un verre d'eau à un envoyé de Jésus-Christ, d'accueillir dans votre vie celui qui vous apporte le message de l'Évangile et de reconnaître, oui, son royaume est plus puissant et plus précieux et plus éternel que tout ce que je vois dans ce monde, et je veux à mon tour accueillir ce message, je veux accueillir celui qui me l'apporte. Peut-être pas un verre d'eau aujourd'hui, mais je veux m'aligner courageusement à ce message de l'Évangile. Peut-être c'est vous qui allez annoncer l'Évangile et vous avez essuyé quelques rejets, quelques échecs dans le partage de l'Évangile, mais sachez que Jésus est avec vous, il promet, il vous encourage, il y aura des gens là-bas qui vont l'accueillir. Voici la charte missionnaire de Jésus, voilà un fardeau pour notre Église, une valeur pour notre Église de vivre la mission. Je comprends que plusieurs ce matin disent c'est bien beau la mission, c'est bien beau le Sénégal, le projet phare, les missionnaires que nous soutenons, tout ça c'est bien beau, mais moi j'ai des problèmes perso, je suis occupé, je suis découragé. Mais je crois qu'une des solutions, une des grandes solutions de nos propres problèmes, c'est d'adopter cette vision missionnaire de Jésus. C'est ce qui redonne la vigueur, la santé spirituelle pour une personne, pour une église, de prendre à cœur la charte missionnaire de Jésus, le fardeau missionnaire de Jésus-Christ. Et si je m'occupe, au lieu de faire du nombrilisme, si je commence à donner des verres d'eau à des personnes qui représentent Jésus, si moi-même je commence à partir, à s'intéresser à des projets comme au Sénégal ou comme ailleurs, eh bien, Jésus est là pour nous encourager, pour nous secourir, pour nous dépanner, pour nous régler nos problèmes, pour que nous puissions le suivre. Alors que ce soit un peu encore notre charte en tant qu'Église, pour voir le règne de Christ venir. Terminons dans la prière. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour cette Église et son engagement missionnaire. Je te rends grâce pour les manières que les responsables de l'Église, que Vincent, le pasteur Vincent, nous a conduits au fil des années dans la mission, dans les projets missionnaires. Je te rends grâce pour le comité missionnaire qui est impliqué. Je te rends grâce pour les projets chaque année comme le voyage au Sénégal, comme bien d'autres. Nous te prions que, en tant qu'Église, nous soyons éveillés à ces choses, que nous pouvons, chacun de nous, exercer un discernement, une sagesse pour rester dans les méthodes de Jésus, pour continuer à prier que son règne vienne, que et collectivement encore ce matin, nous te prions que tu suscites des ouvriers dans ta moisson. La moisson est grande, la moisson est belle, la moisson un grand potentiel encore de nos jours. Nous voyons les foules autour de nous qui cherchent la vérité et qui sont insatisfaites avec les offres de ce monde. Et nous croyons que Jésus, par son règne, par son royaume, par la bonne nouvelle de l'Évangile, offre une solution merveilleuse, la vie éternelle. Et nous voulons prendre part à ce projet-là. Il n'y a rien de meilleur et nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.